Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. J'habite dorénavant à Rangiroa, en Polynésie française, un endroit magnifique où tous les plongeurs passionnés devraient un jour venir plonger. Mais aujourd'hui, c'est de Fakarava dont nous allons parler avec Thibaut. Fakarava, que beaucoup de plongeurs connaissent grâce au reportage de Laurent Balesta, est le premier épisode d'une série sur la plongée en Polynésie. Si vous avez des suggestions à me faire pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à info@paroledeplongeur.com. Bonne écoute! Bonjour Thibaut!
Bonjour Christelle!
Comment vas-tu?
Écoute, ça va plutôt pas mal, c'est la fin de journée, j'ai presque fini le gonflage de la journée, donc je suis plutôt bien.
Sur cette série d'épisodes sur la Polynésie, je commence par toi, Thibaut, t'es propriétaire d'un centre de plongée sur Fakarava. Fakarava, je trouve que c'est une bonne île pour commencer ce tour des îles, parce que j'ai l'impression que c'est quand même l'île la plus connue dans l'esprit des plongeurs en Polynésie. Pas entre Rangi, Faka, mais Fakarava, avec toute l'équipe de Balesta qui a tourné 700 requins dans la nuit, les Mérou, tout ça, j'ai l'impression que quand même Faka, c'est bien ce que les plongeurs connaissent et ont dans leur imaginaire de la Polynésie. Du coup, je suis heureuse de t'interviewer. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Ok, bah écoute, merci. C'est un petit peu intimidant de savoir que tu commences par moi ta grande tournée sur la Polynésie, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Me présenter, je m'appelle Thibaut, j'ai 49 ans, je suis à Fakarava depuis 8 ans. Je fais partie des gens qui se sont mis à la plongée sur le tard, puisque mon premier baptême de plongée, j'avais 32 ans, et j'étais moniteur 4 ans après, parce que j'ai commencé, ça m'a mangé petit à petit, et pas longtemps après, j'ai tout plaqué pour faire plus que ça. Donc à 37-38 ans, j'ai pris mes affaires avec ma compagne Marion, qui est aussi mon associée, avec qui j'ai créé le centre aujourd'hui. On est parti d'abord aux Maldives pour se faire la main, pour voir si bosser dans la plongée à plein temps, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et après quelques années aux Maldives où on a validé le projet, on a dit, bah, tiens, où est-ce qu'on va pouvoir aller pour s'installer, pour travailler pour nous. Et Marion, qui connaissait déjà la Polynésie, m'a gentiment, sans me forcer, mais avec toute la finesse que les femmes peuvent avoir, emmené jusqu'en Polynésie, puis jusqu'à Fakarava, pour me laisser croire que c'est moi qui avais choisi la destination. Mais en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai mis la tête sous l'eau et j'ai dit « Stop, on s'arrête ici, on bouge plus ». Voilà.
Est-ce que tu peux nous décrire rapidement Fakarava ?
C'est un atoll, hein, donc c'est un atoll corallien, c'est-à-dire que la bande de terre habitable, elle fait à peu près 200 mètres de large, donc c'est vraiment un petit morceau de terre. Ça fait comme un grand rectangle, on dirait un grand terrain de foot, Fakarava, vu d'en haut, qui ferait 70 km de long par 20-25 km de large, mais qui est plein d'eau au milieu. Donc c'est la partie réellement habitée, elle fait une vingtaine de kilomètres. Et là-dessus, on est 800-900 habitants à se côtoyer et à vivre ensemble. Et c'est vraiment vivre ensemble parce qu'on est sur une ambiance de village. On va dire Fakarava, tu as une dizaine de grosses familles qui sont depuis des années et qui sont toutes enchevêtrées, entremêlées par cousinage à un moment ou à un autre. Donc c'est un gros village. Et ce que je propose aux gens pour quand ils veulent vraiment sentir ça, je leur dis venez à la boulangerie à 5h30 du matin. Et vous verrez ce que c'est qu'un village de campagne. Je crois que je me sens ici comme dans un village de campagne il y a 40 ans en France. Avec cette ambiance-là, avec ces drames humains, mais cette chaleur en même temps qu'il peut y avoir quand tout est petit, quand tout est fermé. Mais c'est d'un confort de vie génial parce que tout est serein.
Du coup, ça fait partie des Tuamotu. Est-ce que tu peux situer par rapport à Tahiti ?
Alors, ça doit être à 450 km au nord ou est de Tahiti, à peu de choses près. Les Tuamotu, ça fait une grande bande. Si on monte vers le nord depuis Tahiti, on va commencer par tomber sur les premières îles du genre Tikehau. Et si on redescend vers l'ouest, on va voir Rangiroa. Et puis dans l'enfer, on va finir par tomber sur Fakarava. Une heure de vol de Tahiti et on a des connexions avec Tahiti et Rangiroa et indirectement Bora Bora via Rangiroa. Mais donc les seuls aéroports qui nous desservent, c'est Tahiti et Rangiroa.
Combien il y a de centres de plongée sur Fakarava ?
Alors, on est 4 centres au nord de Fakarava et 3 au sud. Parce qu'il faut, comme je disais, Fakarava fait 70 km dans son plus grand côté. Et il y a deux passes à Fakarava, la passe nord et la passe sud. Donc, c'est deux zones bien distinctes. Nous, on est basé au nord. C'est là où se situe le village, l'aéroport. Donc, l'essentiel de la vie est au nord. Mais au sud, il y a un autre centre d'activité avec cette fameuse passe et ses 700 requins. Seulement parce qu'il y en a plus au nord qu'au sud en fin de compte, mais au sud c'est un petit peu le bout du monde, hormis les trois pensions de famille qui y sont et les trois clubs de plongée, il y a rien, il y a pas un magasin, il y a pas un troquet, il y a rien du tout, il y a que ces pensions là. Donc le village, la vie civilisée on va dire, est au nord de Fakarava et le bout du monde c'est le sud. D'ailleurs on ne peut y aller qu'en bateau, la route s'arrête après 20 km donc il y en a encore 50 à faire donc en bateau. Voilà, Fakarava c'est cette dualité entre le nord et le sud, donc quatre clubs au nord, trois au sud pour répondre à ta question.
D'accord. Combien d'heures de navigation pour aller au sud depuis le nord ?
Entre 1h15 et 1h30.
Est-ce que tu peux nous décrire comment se déroulent les plongées ? Par exemple, tout à l'heure en aparté, tu me disais que vous étiez à 25 minutes de navigation de la passe. Donc j'imagine que vous revenez pas forcément entre chaque plongée. Combien vous faites de plongées par jour ? Comment ça se passe ?
Alors effectivement, les quatre clubs de plongée qui sont au nord de Fakarava, on est tous dans une distance de 10 km les uns des autres. Hein, on est tous vers le village. Parce que le village est dans la zone la plus abritée du vent dominant, donc on est tous installés là. Et la passe, elle est à 25 minutes de bateau, donc on est tous logés à la même enseigne. La plupart font deux plongées le matin et une l'après-midi. Parfois c'est inversé, ça peut être une le matin et deux l'après-midi en fonction du courant et de ce qu'on cherche. Et puis il y a des clubs qui choisissent de faire une le matin, une l'après-midi. Il y a des clubs qui veulent ne faire qu'une seule plongée le matin, donc qui reviennent entre les deux. Et quand on en fait deux le matin, c'est des tout-uns, quand on part pour deux plongées, on revient pas entre les deux tours. Et puis, tous les clubs de Fakarava Nord proposent aussi des sorties à la journée pour aller au sud, à la passe sud. Donc là, c'est deux plongées sur la journée. On fait une heure et demie aller, deux plongées, on mange sur place, une heure et demie retour. Ce qui permet depuis le nord de plonger et au nord et au sud.
Ok, cool. Est-ce que tu conseilles à un plongeur qui vient à Fakarava, est-ce qu'il doit réserver à l'avance ses plongées ?
Carrément. Ah ouais, obligé. Là, en ce moment, pour te dire, mon club de plongée, on est complet, presque complet jusqu'à mi-novembre. Depuis un an et demi, la haute saison, c'est du 10 mars au 20 décembre. Donc, il y a quasiment plus de basse saison. Aujourd'hui, un plongeur qui débarque et qui n'a rien réservé, s'il est seul, on peut le caser, mais à partir de deux ou trois plongeurs, c'est très compliqué. Donc, il faut réserver. Pour certaines dates, on va en reparler après, mais pour les mérous au mois de juillet, c'est quasiment un an à l'avance hein, pour réserver. Moi, je conseille de réserver entre 3 et 6 mois à l'avance.
Est-ce qu'il faut être un plongeur confirmé quand on vient à FACA ou est-ce que même les plongeurs débutants, ils peuvent s'éclater ?
Alors, débutant, moi, je conseille vraiment de venir avec un niveau en poche, hein, au moins un niveau 1. Le baptême à Fakarava, c'est pas vraiment l'idéal. On a un spot qui peut être sympa, mais on a rarement la dispo pour prendre des plongeurs en baptême. Et dans tous les cas, on ne verra pas ce que l'on peut se faire comme imaginaire de Fakarava. Les murs de requins, les bancs de requins, ça, c'est accessible que à partir d'un niveau 1 minimum. Alors après, un niveau 1 avec peu d'expérience, on va se débrouiller pour adapter les profils de plongée à son niveau. C'est-à-dire que ici, on est rythmé par les marées. On est rythmé par les marées qui elles-mêmes rythment le courant dans les passes. Donc, on va adapter nos horaires de plongée aux marées et au courant. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir à 7h du matin ou à 9h30 du matin en fonction de ce qu'on va pouvoir trouver comme marée. Et en fonction des niveaux des plongeurs qu'on a, on va partir à des heures différentes pour ne pas se retrouver avec des niveaux 1 dans du gros courant parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas s'abriter en étant limité à 20 mètres. Mais on peut, avec des niveaux 1, faire y compris la passe. Si on est à l'heure de l'étale, donc du changement de courant, on peut proposer des plongées très sympas, pas très compliquées, pour peu qu'ils soient assez bons pour se stabiliser et savoir plonger correctement. Donc oui, tous les niveaux peuvent s'éclater à Fakarava. Venir avec un niveau 1, c'est bien. Avec un peu 40, c'est mieux.
Ouais, c'est comme à Rangi. C'est niveau 1, tu peux faire des super plongées, mais c'est quand même un peu frustrant parce qu'à Rangi, la passe est quand même très profonde. Donc je sais pas, à Fakarava.
Non, c'est une des grosses différences avec Rangiroa, c'est que nous, notre espace d'évolution le plus sympa, il est entre 15-20 et 25-30. On va quasiment jamais au-delà de 30 mètres. Okay. Les requins sont plus hauts, le fond de passe, il est plus dans la zone des 20 mètres. C'est vraiment une des grosses différences. Tout à l'heure, tu disais Fakarava est la zone la plus connue. Moi, je continue à penser que Rangiroa, au plan mondial, est largement plus connu que Fakarava. Pour des raisons marketing, hein, tout simplement, c'est que à Rangiroa, il y a des hôtels qui appartiennent à des grands groupes qui communiquent. à Fakarava, on n'a pas d'hôtel. On n'a que des pensions de famille. Donc il n'y a personne sur le marché mondial de la plongée et du tourisme qui communique sur Fakarava. Tout ne marche que par bouche à oreille. Donc dans le microcosme franco-français, Fakarava, et notamment grâce au film de Laurent Balesta, s'est fait une place, mais sur le marché mondial du tourisme et de la plongée, Anguirois est largement devant. Mais ce qui explique notamment la montée en puissance de Fakarava, c'est notamment par rapport à Anguirois, c'est que le profil des plongeurs a changé aussi. Si on fait un petit peu d'histoire de la plongée des Pomotou, on revient sur Anguirois il y a 35-40 ans, sur le Raymanta Club, qui est le premier club à s'installer là. Et à cette époque-là, le plongeur moyen plongeait à 60 mètres. Et il passait ses vacances à plonger, et il passait 8 jours, 10 jours à Anguirois à plonger 2-3 fois par jour. Et Anguirois, pour ça, c'est un programme parfait. Multiplier plein de plongées, descendre à 50 mètres, 60 mètres, là tu fais des rencontres que tu ne feras jamais ailleurs. Aujourd'hui, le plongeur moyen, il plonge à 30 mètres et il passe deux jours et demi par île. Et pour ça, Fakarava propose un programme parfait. On n'aura jamais les exceptions qu'on peut avoir à Anguirois où tu peux faire une plongée avec un tigre, un marteau, une manta, des règles et des dauphins en même temps. Ça, on l'aura jamais, il faut être clair. Par contre, on a un niveau moyen qui est extraordinaire. Une plongée avec moins de 100 requins dans la passe, c'est quasiment impossible. On a une densité de poissons qui fait que dans 20 à 30 mètres, toutes les plongées sont exceptionnelles. Donc, on correspond mieux aux plongeurs moyens d'aujourd'hui. C'est pour ça que Fakarava monte en puissance.
Au niveau des conditions de mer, la navigation, c'est pas trop compliqué?
Alors, on a le même temps qu'à Anguirois, j'imagine. Mais effectivement, on a plus de navigation. Comme on disait tout à l'heure, c'est 25 minutes de bateau pour aller sur la passe. Donc, on est équipé pour. C'est-à-dire que ici, t'as rarement un bateau avec moins de 300 chevaux derrière. Hein, parce que on part avec 8 plongeurs. C'est des bateaux plus gros. Donc, on est équipé. Ça reste du semi-rigide parce que dans la passe, des récupérations, quand il y a du courant, et donc ce qu'on appelle du mascaré, c'est-à-dire la rencontre entre le courant et le vent opposé, on peut avoir de la mer très formée, et là il faut des bateaux très agiles comme des semi-rigides pour faire des navigations en sécurité. Le lagon est très grand, donc effectivement on peut être sur des conditions de navigation parfois un peu musclées. Voilà. On y est habitué, les bateaux sont adaptés, les plongeurs... Il y a souvent des jours où les excursions sont annulées, mais les plongeurs sortent quand même. C'est-à-dire que ce qu'un plongeur est prêt à accepter pour aller plonger, un excursionniste qui va aller faire son PMT ou sa balade à la journée, il va renoncer. Nous, on y va. Dans l'année, s'il arrive qu'on annule des plongées 2 à 3 jours par an à cause de la météo, c'est le maximum.
Ok. Est-ce que les plongeurs peuvent plonger en autonomie sur Fakarava?
Non.
Guide obligatoire.
Même, il nous est arrivé de refuser ça à des instructeurs nationaux, je te laisse imaginer qu'ils ont apprécié. Mais quand on leur dit non, là, le guide, c'est moi, et c'est tout. Ce que je dis là est vrai pour la passe nord de Fakarava. C'est beaucoup moins vrai pour la passe sud. La différence entre les deux, elle est très simple, tu vas comprendre. La passe nord, elle mesure 1,6 km de large. C'est la deuxième plus grande passe du monde. 1,6 km, c'est énorme. La passe sud, elle fait 200 mètres. C'est-à-dire qu'elle est encore plus étroite que Anguirois. Donc quand tu es au milieu, tu vois les deux bords, tu sais où tu es forcément. La passe nord, si tu rates ton largage, tu rates ta plongée. Si tu n'es pas capable de te repérer sur la marche océanique, tu rates ta plongée. Mais surtout, si tu ne sors pas au point de rendez-vous prévu avec le marin, là, tu rates ton bateau. Et si tu as 1 mètre de vague derrière, le parachute, tu ne le vois plus. Donc, plonger sans connaître parfaitement les points d'entrée et les points de sortie, c'est risqué de rater le bateau et de dériver pendant 2-3 heures dans le lagon. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, si tu veux, pour un moniteur qui arrive à Fakarava, avant de le lâcher complètement, c'est 1 mois et demi à 2 mois de formation pour pouvoir guider Fakarava.
Ok. Pas de plongée en autonomie. Est-ce que ça vaut le coup de venir avec son matos de plongée?
Alors, ça vaut le coup. Financièrement, non, puisque chez moi, en tout cas, on ne modifie pas les tarifs, que tu sois équipé ou non. Le matériel est compris dans le prix de la plongée. Et pour être très honnête, le matos perso, pour nous, c'est plus de travail à gérer, à stocker, à rincer que le matos club. Donc, on garde le même tarif, que tu sois équipé ou non. Après, c'est une question de confort personnel. Quasiment tous les clubs, je parle pas que pour nous, ont du matos qui tient la route. Donc, que tu viennes avec ton détendeur parce que tu y es habitué, tu y fais confiance, ouais, je peux le comprendre. Le gilet, objectivement, ça prend de la place. Pour ce que ça apporte comme différence de sensation, je conseille pas. Quand tu viens en Polynésie, tu fais souvent plusieurs îles. Donc, t'as pas mal de vols intérieurs à faire sur des avions qui sont pas très gros. Un sac de plongée. Si t'as du matos vraiment voyage, c'est bien. Mais si t'as du gros matos lourd, non, ça apporte pas une grande valeur ajoutée.
Ouais, clairement, un ordinateur, un masque, et à la rigueur des palmes, moi, c'est ce que je conseillerais.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous plongez au Nitrox?
Oui.
Waouh, vous avez de la chance.
Alors, je dis fièrement oui, parce que ça fait un mois qu'on a installé la membrane. Jusqu'à présent, on faisait du Nitrox en mélange, hein, avec des bouteilles d'oxy, mais c'est hors de prix. L'oxygène qui est vendu à Tahiti est importé de Nouvelle-Calédonie. Donc, je te laisse imaginer le coût arrivé à Fakarava d'une bouteille qui a commencé sa vie en Nouvelle-Calédonie. Donc,
Ouais.
c'était ruineux, hein. Donc, on a fini par craquer, par investir dans une membrane Nitrox. Donc, oui, aujourd'hui, chez O2 Fakarava, on plonge en Nitrox.
Pour situer à peu près le coût d'une plongée sur Faka, je réfléchissais à ça, effectivement, à Rangi, là, je voyais, si quelqu'un vient pour une plongée sans avoir pris de passe, de réduction ou quoi, ça revient à peu près à 80 € la plongée, quelque chose comme ça.
Alors, je suis en train de faire la conversion parce que j'avais pas forcément les
Oh
chiffres
là
en
là.
euros. Mais tu vois, chez moi aujourd'hui, sur une plongée, tarif 2023, une plongée en one shot, on a 75 euros.
Et effectivement, après, il y a pas mal de passes qui permettent d'avoir des réductions, des passes inter-îles, qui permettent d'avoir les plongées aux alentours de 60 €, quoi, quelque chose comme ça.
Je fais une petite conversion parce que ça fait trop longtemps que je suis là. C'est ça, ouais. 60, plutôt 65, entre 65 euros, c'est un prix très sympa pour plonger, pour prendre des passes, ouais.
Ok, cool. Alors maintenant, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse un peu plus à vraiment la plongée, que tu nous expliques ce que c'est déjà peut-être. Plonger dans une passe, depuis tout à l'heure on dit plonger dans la passe, mais il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la plongée dans la passe et puis bah, les spécificités de la passe de Faka?
Alors, juste deux mots pour remonter un peu en amont. D'où vient le courant dans les passes? Il faut peut-être le rappeler. Un lagon, c'est comme une cuvette fermée qui est ouverte sur l'océan par ses passes. On pourrait aussi partir sur d'où viennent les passes, mais là, on n'a pas le temps maintenant. Cherchez sur Internet comment se créent les passes dans le récif. Donc, le lagon, c'est une cuvette fermée qui est ouverte par les passes. Donc, lorsque la marée monte dans l'océan, le lagon se remplit par les passes. Et lorsque la marée baisse dans l'océan, le lagon se vide par les passes. Donc quand la marée monte, ça crée du courant rentrant. Quand la marée baisse, ça crée du courant sortant. Ce qui explique que le courant change toutes les 6 heures, puisque les marées se répètent toutes les 6 heures. Ça, c'était le point de départ. On évite, dans certaines passes, de plonger par courant sortant. Je dis dans certaines parce que, par exemple, Fakarava Sud, on peut la plonger par courant sortant, si on la connaît bien. Fakarava Nord, jamais. Hors de question. Pourquoi? Parce qu'avec le débit de l'eau, qui peut être très très important, comme je disais, une passe de 1,6 km de large, t'imagines le volume de flotte que ça fait quand tout le lagon se vide. Et au moment où le courant arrive sur la cassure de la marche vers l'océan, ça crée un courant descendant qui tire très très fort. Et pour m'être fait prendre une fois ou deux en bordure de passe, quand tu vois tes bulles qui partent vers le fond, ça sent pas bon. Il y a de quoi se faire très peur, donc ça on n'y joue pas. Sans compter que par courant sortant, le lagon se vide, donc il y a pas mal d'alluvions qui sont transportées, donc l'eau est trouble. Et quand on vient en Polynésie, c'est pour plonger dans de l'eau claire et 40 mètres de visibilité. Donc plonger dans de l'eau trouble, ça a ses charmes aussi, il y a des très très belles plongées comme ça, mais c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Donc la passe, on va y plonger par courant rentrant principalement. Dans le courant rentrant, on va avoir différentes étapes. On va avoir d'abord ce qu'on appelle l'étale, c'est le moment où le courant passe de sortant à rentrant. Donc c'est le moment où il n'y a pas de courant, pendant un temps plus ou moins long, qui peut durer 10-15 minutes jusqu'à 30 minutes, ça dépend des marées, de la forme de la marée. Mais là, on va avoir ce moment où le courant se met en place. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on se rend compte que les animaux se mettent en place aussi. Parce qu'une passe, et l'océan en général, mais une passe en particulier, c'est un endroit où chacun a sa place. C'est-à-dire que les bancs de poissons qui sont à tel endroit par courant sortant vont se déplacer pour venir à un autre endroit, toujours le même, pour ce même banc de poissons par courant rentrant. Et donc l'étale, c'est ce moment où les poissons et les requins changent de comportement, changent d'emplacement. Les requins, ils vont aller chercher l'emplacement le mieux adapté à leur objectif premier, c'est se mettre face au courant pour respirer sans forcer, puisqu'ils ont besoin de courant pour respirer, puisqu'ils n'ont pas de muscles dans les branchies. Je m'égare un petit peu, mais ça explique tout ça. Donc l'étale, le changement de courant, c'est un spectacle vraiment sympa parce que les animaux changent de position et viennent chercher leur place pour le courant entrant. Et en plus, nous, on peut en profiter parce qu'on n'est pas trop poussé par ce courant puisqu'on est à l'étale. Et après, au fur et à mesure de la marée s'installant, le courant va forcir de plus en plus. et on va avoir du courant qui va être plus ou moins fort en fonction du marnage de la marée, donc de la hauteur de marée. Si la marée est très haute, c'est-à-dire qu'en 6 heures, il y a beaucoup plus d'eau qui va rentrer, donc un courant beaucoup plus fort. Et là, le principe d'une plongée dérivante, ça va être de chercher pendant la plongée des points où on va pouvoir s'abriter pour ne pas faire que dériver et ne pas se faire emporter par le courant, parce que le point d'intérêt de la passe, c'est vrai en Guiroa aussi, il est sur une zone qui n'est pas extensible à l'infini. Les poissons, les animaux viennent se mettre le plus proche de l'embouchure de la passe. Donc c'est par là qu'il faut rester en cherchant des points pour se mettre à l'abri. Mais l'abri de quoi? Ben, c'est un peu comme l'abri du vent. Quand il y a du vent, tu veux te mettre à l'abri, tu cherches un rocher derrière lequel tu vas t'abriter pour être protégé du vent. Le courant, c'est la même chose. Et ce qu'on voit, c'est que les poissons font comme nous. Ils vont chercher des endroits où s'abriter du courant. Donc, les endroits où nous, on va se sentir bien, généralement, c'est les endroits où les poissons vont être en abondance aussi. Fakarava, je te parle de ça parce que dans la passe nord, on a notamment un canyon célèbre qu'on appelle le canyon de Ali Baba. Pourquoi est-ce qu'il est célèbre et fameux? C'est parce que ce canyon, il est perpendiculaire au sens du courant. Dans le canyon, on est abrité du courant. Quand on descend dans ce canyon, le courant nous passe par-dessus et il est rempli de poissons parce que pour les poissons aussi, c'est une zone où on va s'abriter. Donc voilà, la plongée dérivante, c'est ça, c'est jongler entre des moments où on va se laisser emporter et dériver et des moments où on va se mettre à l'abri pour se poser et observer sans se faire emporter par le courant.
Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce canyon s'appelle Ali Baba? Est-ce que tu la connais?
Alors, j'ai eu plusieurs versions. La plus vraisemblable, c'est parce que quand on cherche au fond du canyon, on trouve des dents de requins, parce qu'il y a pas mal de requins qui tournent par là aussi. Donc quand on gratte un petit peu dans le sable au fond du canyon, on peut trouver des dents de requins. On trouve des dents de requins, donc ça serait le trésor d'Ali Baba. À titre personnel, quand je suis dans ce canyon, je préfère regarder vers le haut que fouiller dans le sable, parce que vers le haut, il peut se passer plein de choses. Des mantas qui peuvent passer, des requins tigres, des requins marteaux, ou des poissons par milliers qui sont là. Donc passer ma partie de la plongée, la tête dans la salle à chercher des dents de requins, personnellement, ça ne m'éclate pas plus que ça.
Ok. Du coup, là, tu parlais du courant rentrant. Qu'est-ce que vous faites sur du courant sortant?
On plonge sur les récifs. On plonge sur les récifs extérieurs, donc sur les abords de passe. Donc par courant sortant, si tu veux, on va trouver de l'eau claire sur le récif en bord de passe. Et un écosystème totalement différent. C'est-à-dire que autant dans la passe, c'est du lourd, c'est dense, c'est beaucoup de requins, des gros bancs de requins, des centaines de requins, c'est des gros bancs de poissons, des perches pagaies, des chinchards, des poissons chèvres. Sur le récif, on est sur une ambiance beaucoup plus corallienne, beaucoup plus aquarium, pour le dire comme ça, avec des papillons, des poissons anges, des perroquets, des mérous, des loches, des carangues, des chirurgiens. On va même pouvoir trouver du poisson feuille, du poisson pierre. Donc on est sur une plongée beaucoup plus petit, mais avec une variété et une densité hyper intéressante. Le récif est très riche, y compris en termes de corail.
D'accord. Est-ce que du coup vous avez un site de plongée ou vous avez plusieurs sites de plongée?
Alors comme je te disais, la passe nord, elle fait 1,6 km de large, donc c'est un site. Mais les différents parcours qu'on peut y faire sont eux-mêmes des sites différents. C'est plus des parcours différents que des sites différents. Et un même parcours que tu vas faire à deux moments différents de la marée, en étal ou en milieu de marée ou en fin de courant rentrant, tu auras des comportements différents des animaux. Donc un même parcours à deux moments différents, c'est deux plongées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc on a la passe qui à elle seule mérite une dizaine de plongées pour si on veut la voir sous toutes ses facettes. Et puis tu as le récif qui va être un peu plus redondant certes, mais qui est d'une telle richesse que tu peux le plonger 3, 4, 5 fois. Tu peux y croiser des mantas en nettoyage, tu peux y croiser des bancs de poissons qui vont bouger un petit peu. Donc le récif, c'est un site un petit peu qu'on va pouvoir faire plusieurs fois, mais qui est très riche.
Tu dis des mantas en nettoyage, vous avez un spot de nettoyage de mantas?
Alors on n'est pas sur un spot de nettoyage comme on va pouvoir le trouver dans certains atolls, je pense à Tikehau, je pense à Maupiti, où tu as là la patate sur laquelle, enfin, sur un fond de sable, tu as une patate où les mantas viennent se faire nettoyer. Là on est nous sur un récif, donc on a quelques endroits où des petits labres vont venir nettoyer les mantas, mais elles vont passer, faire un stop de 4-5 minutes et repartir. J'arrive pas, et je pense pas que grand monde y arrive aujourd'hui, à déterminer ce qui fait que tel jour il y en a ou tel jour il n'y en a pas. On peut rester 15 jours sans en voir, puis on va en voir pendant 3 jours, puis après plus. Il doit y avoir dans le lagon des spots de nettoyage, comme je te décrivais juste avant, une patate sur le sable, mais on ne les connaît pas. Le lagon est super grand, et donc parfois elles sortent sur le récif. On sait que par fin de courant sortant, on a plus de chances d'en voir. Mais on n'est pas sûr de la sortie manta garantie comme tu peux l'avoir, soit à Bora Bora, Maupiti, Tikehau. Juste pour préciser de tout ce que j'ai raconté là, j'ai beaucoup parlé de la passe nord de Fakarava. Il faudra que je te parle aussi de la passe sud à un moment, puisque c'est la passe fameuse où Laurent a plongé, où les films ont été tournés. Et il faut peut-être désacraliser un petit peu, ou en tout cas rétablir certaines vérités, parce que j'entends souvent des gens me dire: « Ah non, mais moi je viens à Fakarava pour la passe sud. En gros, si tu plonges pas au sud, tu rates ta vie. » Dans les faits, les plongeurs qui connaissent bien Fakarava vont finir par préférer la passe nord à la passe sud. Donc, je vais d'abord dire un peu de mal de la passe sud, puis après j'en dirai beaucoup de bien. Mais pour imaginer la différence entre les deux, je prends souvent cette image-là. Quand tu vas à Paris, tu peux aller à Disneyland et tu peux aller au Louvre. La passe sud, c'est Disneyland, la passe nord, c'est le Louvre. Alors, passer une journée à Disneyland, c'est génial. Tu vas t'amuser, tu en prends plein les yeux. Mais le Louvre, tu peux y retourner 20, 30, 50 fois. Tu vas découvrir des nouvelles facettes, des nouveaux aspects. C'est un petit peu ça. Là, je viens de me fâcher avec tous mes copains de Fakarava Sud, une fois que j'ai dit ça. Mais ils savent ce que j'en pense et on s'aime beaucoup. Ceci étant, Fakarava Sud, c'est un phénomène très particulier parce que la passe, elle est, comme je disais, assez étroite et longue. Son nom polynésien, c'est Tumakohua, qui se traduirait par le vagin. Et je suis quasiment sûr que c'est par sa forme qu'elle a ce nom-là. Donc, on imagine le long couloir que ça peut être, qui s'évase après pour partir vers les trompes, hein. Donc, cette passe, elle est étroite et longue. Et quand on regarde les deux passes de Fakarava, on a la passe nord qui est très grande, donc c'est un grand trou dans le lagon, et la passe très étroite. Donc quand il y a des gros marnages, des grosses marées, le plus gros du courant passe par la passe nord. Du coup, le courant dans la passe sud, il est assez linéaire. Il est linéaire, il n'est jamais très violent. Et donc ce courant linéaire permet aux requins de se caler et de ne plus bouger. Donc c'est pour ça qu'on a cette qualité d'observation des requins, c'est parce qu'ils peuvent se poser là. Et ils sont en mur, en tout cas, il faut dire en banc de requins. Il y a plusieurs bancs qui se succèdent dans la passe sud de Fakarava parce qu'ils sont hyper statiques, ils peuvent rester là sans aucun effort. Alors, c'est très chouette pour observer du requin. Ils sont statiques. Alors qu'au nord, même s'ils sont moins concentrés, ils sont plus actifs. Ils sont plus à chercher dans les bancs de poissons. Donc, il y a du bien et du moins bien. Mais ça reste des images magnifiques. Ça reste un spectacle vraiment sympa. Le corail est très très chouette. Le corail de Fakarava Sud est très bien préservé. Ça, c'est ce que j'entends tous les jours et je le partage. Après, en termes de densité de poissons, de variété, on est moins bien qu'au nord. Mais pour ces images de murs de requins, ouais, c'est assez grandiose. Donc, sur un séjour à Fakarava, si tu peux aller au sud, c'est bien. Si tu ne veux faire que ça, mon conseil, c'est prendre un hébergement au sud. Mais c'est dommage de ne pas plonger au nord. Et si tu ne peux plonger qu'au nord, parce qu'il y a des moments où on ne va pas au sud, tu ne rateras pas ton séjour à Fakarava. La passe nord, elle est largement aussi intéressante. Très souvent, les plongeurs qui font les deux nous disent: Ah ouais, mais Fakarava Nord, c'est ça quand même. C'est balèze. Alors qu'ils venaient avec une image de Fakarava Nord, c'est un deuxième choix après le sud. Non, loin de là.
Ok. Alors, on va parler de ce qu'on peut voir, effectivement. Tu as parlé des murs de requins. Murs de requins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi?
Alors c'est des bandes de requins, c'est plutôt des groupes, des bandes de requins. D'ailleurs on remarque, notamment sur Fakarava Sud où ils sont assez statiques, que ce sont les mêmes requins qui restent dans le même banc. Il y a très peu d'échanges entre les bancs. Donc c'est des bandes de requins qui trouvent une place dans la passe et donc qui vont rester là assez statiques. Donc on va avoir des regroupements de 100, 150 requins sur un petit périmètre, donc qui donnent cette sensation de mur. Moi, je préfère parler de gros bancs de requins. Fakarava Nord, on est quasi essentiellement sur du requin gris. Fakarava Sud, on a beaucoup de requins gris, on a quelques pointes blanches de récif, les Albi marginatus, et on a quelques requins bordés à Fakarava Sud qu'on n'a pas à Fakarava Nord. Quelques
Donc,
pointes blanches de lagon aussi par-ci par-là dans les deux passes, ça c'est la base.
ok. Quel autre type de requin on pourrait croiser du coup un peu plus par hasard?
Par hasard, c'est du tigre, du marteau, rarement, mais ça arrive du pointe blanche océanique, hein, du Longimanus, mais là c'est quand même des requins pélagiques qu'on croise rarement proche des côtes. Et on peut avoir des requins baleines qui passent par là. C'est hyper rare, mais ça arrive comme à Rangiroa, quoi.
Vous croisez des baleines de temps en temps?
Alors, hier, il y a une palanquée qui a croisé des baleines sous l'eau. Enfin, une baleine sous l'eau. Ce matin, une palanquée de chez nous qui s'est mise à l'eau et la baleine est sortie à côté 5 minutes plus tard, donc ils l'ont ratée, mais à rien du tout. Donc on croise des baleines. Les Tuamotu, c'est pas une zone d'arrêt pour les baleines, donc elles passent, elles vont plus vers Tahiti, Moorea, mais elles passent. Donc elles peuvent rentrer dans les lagons. Il y en a. En saison, on en croise régulièrement, mais on n'a pas les mêmes densités que ce qu'on peut avoir sur Tahiti, Moorea ou les Australes.
Des dauphins?
Oui, mais pas les mêmes que chez vous à Rangiroa. Nous, on a des bancs de spinners, donc ils sont beaucoup plus petits qu'à Rangiroa et surtout ils sont craintifs. Ils peuvent parfois venir jouer dans les traves du bateau, mais dès qu'on se met à l'eau, ils disparaissent. Donc, il peut arriver rarement qu'on les croise sous l'eau, mais on n'est pas du tout sur le type d'observation que vous pouvez faire à Rangiroa, qui sont une exception mondiale.
Quelques rencontres que qu'on peut faire un petit peu.
Pour moi, la rencontre la plus, une des plus marquantes, hein, c'est avec le mérou géant. Ça fait peut-être 2-3 ans que je ne l'ai pas vu, et en 8 ans, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois. Mais quand
D'accord.
tu vois un mérou qui est plus gros que les requins, je me souviens, le dernier que j'ai vu, d'en haut, je pensais voir un requin-tigre, tellement qu'il était gros par rapport au requin gris que je voyais. Et en m'approchant, je dis, non, qu'est-ce que c'est? C'est un mérou de 3 mètres. C'est démentiel. Donc, alors c'est un animal qui vit très profond, donc quand tu le croises, c'est qu'il est passé par là pour une raison ou une autre, mais c'est exceptionnel. Donc pour moi, c'est assez marquant, ouais.
Cool. Est-ce qu'il y a une périodicité pour voir certaines espèces?
Un des moments phares de l'année, ça va être la reproduction des loges marbrées, donc qui a été filmée par Laurent Balesta. C'est un phénomène qui a lieu dans beaucoup, beaucoup de passes dans les Tuamotu, et pas seulement à Fakarava Sud, sauf que c'est à des moments différents. Par exemple, à Fakarava Nord, on a le même phénomène, mais la reproduction va avoir lieu 5 à 7 jours avant Fakarava Sud. Dans les autres atolls, je pense à Manihi, ça va être un mois ou deux avant. Alors, Fakarava Sud, ce point qui est marquant, c'est que c'est à la pleine lune de juin ou de juillet. Ça dépend des années. Ma théorie, c'est que c'est la pleine lune la plus proche du 1er juillet. Donc, si tu as
Ok.
une pleine lune au 5 juillet, ça sera en juillet, mais si tu as une pleine lune au 20 juin, ça sera au 20 juin. Voire, ça peut être deux fois. Cette année, on a eu une petite repro vers le 10 juin et la grosse repro au 10 juillet. Ça, c'est ce qui est surprenant à Fakarava Sud, c'est que c'est vraiment calé sur la pleine lune. Alors qu'au nord, non, c'est 5-6 jours avant. Et donc là, pour expliquer ce qui se passe, c'est que pendant les 10-15 jours qui précèdent la reproduction, toutes les loges marbrées du lagon se regroupent dans la passe. Et comme je disais, la passe sud de Fakarava est très étroite, donc ça fait une densité extraordinaire. Et donc pendant les quelques jours qui précèdent la reproduction, les mérous vont être en compétition pour choisir la femelle qu'ils vont féconder, parce que la reproduction va durer une petite heure, 2 heures maximum, où ça va être une partouze géante, en fait, hein, où les femelles vont lâcher leurs œufs, les mâles vont les ensemencer, mais tout le monde en même temps. Donc ça fait un truc assez magique. Pour ma part, je n'ai pas envie de plonger à ce moment-là. Je ne veux pas plonger à l'instant de la reproduction. Alors que des gens viennent du monde entier pour cet instant-là, moi, ça me gêne. J'adore y plonger les 10 jours avant, parce qu'on assiste à ce regroupement, cette densité. Sur l'instant de la repro, je me dis, ils ont une fois dans l'année une reproduction, on peut les laisser tranquilles. C'est pas le... Et puis, il y a trop de monde, on va dire ce qu'il y a, il y a trop de plongeurs à ce moment-là, donc moi ça me saoule. Alors oui, le spectacle est beau parce que il y a des poissons qui viennent s'attaquer aux œufs qui sont lâchés par les femelles, donc il y a des requins qui viennent sur les poissons, donc il y a une espèce de frénésie qui se met en place. Mais là, en tant qu'être humain sous l'eau, je me sens pas à ma place. Alors c'est un avis très perso, mais je me dis, là, on n'est plus là où il faut. Par contre, venir les quelques jours avant, ouais, c'est magique. Donc ça, c'est le rendez-vous saisonnier des loges marbrées. Après, on va avoir, par exemple, là, octobre, la reproduction des perches pagaies. Donc là,
Ah, magnifique.
on se voit plus dans la passe, quoi. Il y en a de partout, une densité extraordinaire. Donc on va avoir, par moment dans l'année, quelques espèces qui vont se reproduire à telle ou telle période. Donc allez, les perches pagaies, c'est assez marqué. Les chirurgiens qui vont pouvoir se reproduire par période. Je pourrais pas te dire exactement là à quel moment c'est. Mais globalement, on a une stabilité toute l'année. Il n'y a pas de grosse période comme on pourrait dire sur Anguirois, les requins marteaux, c'est de février à avril. Ici, non, on n'a pas de période très très marquée sur ce qu'on va trouver sous l'eau.
Quand tu parlais du coup des mérous, c'était plus face sud. Et par contre, perche pagaie, tout ça, c'est aussi sur le nord.
Alors, les mérous, on les a aussi à la passe nord. Sauf
Ok.
qu'ils sont un peu plus loin dans la passe et un peu plus étalés. Donc on a moins l'impression de compacité que tu vas avoir au nord, au sud, pardon. Ils y sont aussi, mais effectivement, l'endroit privilégié pour les observer, c'est la passe sud à ce moment-là. les perches pagaies, c'est partout.
Qu'en est-il des plongées de nuit?
Alors, c'est là qu'on va se fâcher. Ok, il y a un centre de plongée qui propose des plongées de nuit, ou en tout cas des plongées soleil couchant, c'est-à-dire mise à l'eau, il fait pas encore nuit, et on sort, il fait nuit. Il y a un club qui fait ça à la Passe Sud. Il y en a qu'un, pourquoi? C'est parce que tous les autres, on considère que, en termes d'environnement, c'est pas bon. Pourquoi? C'est sympa à faire. On le voit dans le film de Laurent Balsa, Les 700 requins dans la nuit. On a des scènes de frénésie, des scènes de prédation qui sont extraordinaires. Sauf que ces scènes-là, elles sont pas naturelles. La nuit, les poissons vont sortir plus facilement parce que l'obscurité les protège. Quand les plongeurs débarquent avec leur lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux requins, à table, la nourriture est là. Et donc, effectivement, ça crée des scènes de prédation et des scènes de chasse. Mais c'est exactement comme faire du feeding. Avec ce que ça a de bon, parce que ça fait des belles observations, et de moins bon si on le fait trop souvent, ou si on le fait de façon pas assez raisonnée, pas assez encadrée. Donc aujourd'hui, des plongées de nuit dans les passes où on va chercher des scènes de prédation, moi je suis pas pour, on est nombreux à pas être pour. La direction de l'environnement parle de l'interdire depuis des années, mais il n'y a rien qui est fait aujourd'hui. Ceci étant, tous les gens qui le font en reviennent emballés, et je les comprends parce que visuellement c'est magnifique, des scènes de prédation de requins. Ça abîme le corail quand même, parce que quand les poissons vont se planquer sous les coraux, les requins vont les chercher, donc ça défonce bien le corail, donc c'est assez... Et puis ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est dans une passe avec des requins, il fait nuit, donc ça demande un niveau de plongée, au moins un niveau d'assurance et de calme que tous les plongeurs qui font n'ont pas forcément toujours. Donc voilà, c'est critiquable sur certains aspects. Si c'est fait occasionnellement, voilà, je refuse de le faire. Je l'ai même jamais fait pour moi perso, parce que je peux pas critiquer et le faire. Mais même pour ma gueule, je l'ai jamais fait. Mais je pense que ça doit être très très sympa. Après, des plongées de nuit plus classiques, aller sur un récif et profiter de la lumière de ta torche pour observer le récif différemment, on le fait pas. Pour une raison première, c'est que la navigation de nuit dans le lagon est pas simple du tout. Pour une raison deuxième, c'est que on bosse déjà énormément et que... on n'a pas les équipes pour faire un tour de plus le soir en plongée de nuit. Mais ça nous est demandé très fréquemment.
Ok. Je crois qu'on a passé en revue pas mal de choses. Pour résumer, toi, est-ce que tu aurais un conseil sur une durée, quelqu'un qui voudrait voir un bon panel de choses FACA, combien de plongées il faudrait faire ou combien de jours faudrait rester, plongée sud, nord
Alors, le minimum, c'est 3 jours de plongée. Un jour où tu arrives, 3 jours de plongée, un jour où tu pars. Avec ça, tu peux te faire 2 matinées au nord et certainement 1 journée au sud. Si tu élargis un petit peu, tu passes à 4 ou 5 jours, tu augmentes tes chances d'être beaucoup plus sûr de pouvoir aller au sud. Voire même de pouvoir aller, on n'a pas parlé, sur un atoll qui s'appelle Toao, qui est au nord de Fakarava, un atoll qui est inhabité, mais qui est vraiment très très sympa en plongée. C'est à 45 minutes à 1 heure en bateau depuis la passe de Fakarava. Sauf que comme on passe par l'océan, il faut que les conditions météo soient bonnes pour y aller. Donc on peut pas le prévoir, on peut pas le programmer. Ça se décide sur l'instant. On y va assez rarement en fin de compte, mais quand on peut y aller, c'est assez génial. Donc voilà, si tu restes entre 4 et 5 jours, tu augmentes tes chances de faire ça. Et dans tous les cas, 3, 4, 5 jours, c'est des durées où tu regretteras pas ton séjour à Fakarava. Après, pour des gens qui ont un peu plus de temps, ils peuvent faire un séjour séparé en deux, c'est-à-dire passer 3 nuits au nord et 2 nuits au sud, ça peut se faire. Tu perds du temps sur la journée de transfert, parce que c'est un jour où tu vas pas plonger, donc ça se réfléchit. Le conseil principal, c'est préparer votre séjour, parce que les hébergements sont limités. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'hôtel à Fakarava avec des pensions de famille, donc c'est limité en termes de volume. On trouve de tout, hein. On trouve du camping, quelques Airbnb, mais pas beaucoup, mais pas mal de pensions de famille très sympas où tu vas avoir de la demi-pension. C'est full 2 mois à l'avance, sans problème. En haute saison, c'est 6 mois à l'avance. Donc, et il faut réussir à goupiller à la fois les billets d'avion, les dispos hébergement, les dispos plongée. Donc, au plus tu t'y prends à l'avance, au plus tu as de facilité à organiser tout ça.
Une dernière chose au niveau des saisons, est-ce que vous avez du coup saison humide, saison sèche? Est-ce qu'il y a une période qui est plus sympa pour venir plonger?
Alors, on va dire il y a 3 grands types de saisons. Tu as la saison de mi-juin, fin juin à fin septembre, qui est la saison du Malamou. Le Malamou, c'est le vent dominant, c'est un vent sud-est. Donc on est en saison fraîche, logiquement sèche, avec ce vent dominant qui est assez marqué. Donc pour des gens qui viennent de métropole, ils vont apprécier le fait de ne pas avoir trop chaud, Nous, on a froid, clairement. L'eau n'est qu'à 28, 27, 28, et moi, je suis plus habitué à ça. Mais donc, il pleut pas, donc c'est sympa. Il fait pas trop chaud, on n'étouffe pas, donc c'est sympa. Il y a du vent, donc les conditions de navigation sont parfois un petit peu plus musclées. Après, à l'autre extrême, tu vas avoir la période de mi-fin décembre jusqu'à février-mars. On sera en saison des pluies. Pour le coup, très peu de vent, de la pluie, mais on n'est pas sur de la pluie non-stop. C'est-à-dire que on va avoir un ou deux grains dans la journée. Rarement des jours entiers de pluie, mais ça peut arriver. Là, il fait chaud. Donc, c'est les périodes où on va, pour être positif, avoir les billets d'avion les moins chers. C'est là où c'est les périodes les moins courues. Mais sous l'eau, c'est très sympa. Ça change pas grand-chose puisque, je fais une petite digression, mais on est sur des atolls très plats. Enfin, Carava, le point culminant, c'est un ralentisseur. C'est 1m50. Donc, quand il pleut, il n'y a aucun ruissellement. Donc, la pluie n'entraîne pas d'eau trouble. Donc, venir en période des pluies, c'est pas un gros souci pour la plongée. Après, pour être sur la plage, ça, c'est autre chose. Donc, j'ai dit deux saisons. Maramou d'un côté, saison fraîche, du vent et pas de pluie. Saison des pluies et il fait chaud et il n'y a pas de vent. Et puis, tu as les intersaisons qui sont très chouettes. Et c'est, je pense, moi, ce que je préfère, c'est-à-dire la saison mi-septembre à fin novembre, où là, on est entre deux. Il commence à y avoir moins de vent, il n'y a pas encore de pluie, la température remonte. Et de l'autre côté, tu as la période fin mars à mi-juin, où pareil, on est entre deux. Pas trop chaud, pas trop de vent, pas trop de pluie. On est bien tintin, là, comme ça. Voilà. Un dernier point à noter, c'est que juillet-août, outre la météo, on est sur une fréquentation de famille. Donc, sans être péjoratif, de petits plongeurs, des gens qui viennent plonger un jour, deux jours, beaucoup de niveau 1, il y a beaucoup de monde. Donc, pour des gens qui n'ont pas de contraintes, venir hors juillet-août, c'est bien. C'est bien, surtout pour des gros plongeurs qui viennent là que pour ça. Ils s'éclateront plus sur la période, les intersaisons, que sur juillet-août.
Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour terminer cette interview ?
Merci, c'est super sympa de faire ce podcast. C'était très cool de discuter avec toi. Ce que je peux dire, c'est que là, tu m'as contacté pour parler de la plongée et donc de mon club de plongée un petit peu. À Fakarava, il n'y a que des bons clubs de plongée. Je le dis avec beaucoup de sincérité. On est une petite île, c'est des petits clubs. On s'aide entre nous, on se fait pas la guerre. On est tous potes. Et ça compte pour faire une destination avec une belle ambiance. C'est chouette. Donc, que ce soit chez moi ou ailleurs, vous pouvez venir tranquille. On a tous nos spécificités, mais on est tous des bons clubs de plongée. Donc vous pouvez venir tranquille.
Super. Eh ben merci beaucoup Thibaut. C'est super d'avoir pris le temps de faire cette interview, surtout en haute saison. Là, on a beaucoup de travail tous, donc merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis à tout bientôt sur FACA du coup. Cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt !